Radio Kapi.
Oh Kapi.
À la présentation.
Au sommaire de ce journal, quatre formations politiques dont UNC, BUREC, CODE et AAAP, tous de l'Union Sacrée, forment un regroupement politique dénommé Pacte pour un Congo retrouvé. À en croire Vital Kamerhe, Tony Kankouchikou, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa, respectivement leaders de cette nouvelle alliance politique, le but est d'apporter les soutiens et les renforcements à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours. Au nord Kivu, une bombe est tombée dans un quartier hier à Mweso et fait un mort, des blessés et une maison endommagée. La situation reste tendue dans cette région de Masisi après d'intenses combats toute la journée d'hier lundi opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et les FRDC. L'invité de ce journal, c'est Quentin Noir Fallis. Il est l'un des réalisateurs du film Patrice Lumumba, Les Retours d'un héros. Ce film raconte les célébrations hautement politiques du retour de la dépouille de Lumumba, mais cherche surtout à savoir ce qu'il reste de Patrice Lumumba au Congo et en Belgique. Madame, Messieurs, bonsoir. D'abord cette information. La Commission électorale nationale indépendante a publié ce mardi 23 janvier 2024 à la télévision nationale RTNC les résultats provisoires des élections communales du 20 décembre 2023. Il s'agit au total de 915 conseillers municipaux de 26 chefs-lieux des provinces de la RDC qui ont été proclamés élus sur plus de 50 000. Ces scrutins ont été organisés uniquement dans les chefs-lieux, mais la voie est tracée pour les futurs, affirme la centrale électorale. Pour Denis Kadima, président de la CENI, ces élections vont permettre à notre pays de renouer avec la démocratie à la base par la participation active des citoyens à la gestion de leur communauté. Notons que c'est pour la première fois depuis 1987 que les élections communales sont organisées en RDC. Et puis, je vous le disais au sommaire, quatre regroupements politiques, Action des Alliés et UNC, Alliance des Acteurs Attachés au Peuple, AAAP, Alliance Bloc 50 et Coalition des Démocrates CODE, respectivement de Vital Kamerhe, Tony Kankouchikou, représentant de l'autorité morale de l'Union Sacrée, Julien Paluku et Jean-Lucien Boussa s'unissent au sein d'une alliance politique dénommée Pacte pour un Congo retrouvé, PCR. Après l'accord signé lundi 22 janvier, ce nouveau mouvement politique, membre de l'Union Sacrée pour la Nation, a été présenté ce mardi devant les médias et sympathisants de divers partis les constituants. À en croire ses leaders, cette nouvelle force politique a pour ambition, entre autres, d'apporter les soutiens et les renforcements à travers les élus respectifs de chaque regroupement politique de la majorité parlementaire durant la législature en cours, ainsi que l'accompagnement du gouvernement qui en résultera. Écoutons à ce sujet Vital Kamerhe, président de l'UNC, au micro de Billy Ivan Lutumba.
Puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux, plus de 700 députés provinciaux, est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de l'Union Sacrée de la Nation? Disons non. Ce que nous venons de faire, c'est pour renforcer la cohésion au sein de l'Union Sacrée, ramener la discipline pour que nous tous nous sachions que désormais, nous n'avons plus droit à l'erreur. Le président de la République ayant reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes, il a désormais, nous l'avons vu, le jour de la prestation du serment, la légitimité populaire. Nous devons donc faire en sorte que nous n'épargnions aucun effort pour que les idées du président se transforment en action pour ainsi répondre aux besoins de notre population. Nous n'avons pas parlé de partage de pouvoir, que les esprits qui sont troublés à ce moment, c'est calme. C'est la cohésion, c'est la passion du Congo, c'est l'obsession d'accompagner le président de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris avec le peuple congolais.
Comme je Au sommaire, rendons-nous à présent au Nord Kivu, où un mort, des blessés et une maison endommagée sont des dégâts causés par une bombe qui est tombée dans un quartier hier à Mweso. La situation reste tendue dans cette région de Masisi. Après d'intenses combats toute la journée d'hier lundi, opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux et les FRDC, une accalmie relative est notée également sur l'axe Kibumba après des combats d'hier à Kanyamahoro dans les groupements des Bahumba, à une dizaine de kilomètres au nord de Goma. La société civile locale affirme que la situation n'est pas rassurante dans cette zone. Sifa Maguru pour plus de détails.
Plusieurs sources affirment qu'une psychose a gagné la population dans l'agglomération de Mweso toute la soirée d'hier à cause de l'intensité des affrontements non loin de la cité, mais aussi cette bombe qui est tombée sur une habitation causant la mort d'un jeune homme de 15 ans. Deux femmes ont été blessées grièvement et leur maison détruite. Un calme précaire s'observe dans la mi-journée de ce mardi dans cette région, mais les habitants craignent que la situation puisse changer à tout moment. Par ailleurs, sur l'axe Kibumba, nos sources indique que les lignes n'ont pas bougé hier à l'issue des combats à l'armée lourde entre les rebelles et les groupes armés locaux et les FARDC. Les deux parties continuent à renforcer leur position, s'inquiètent nos sources. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Dans le même chapitre, en Ituri, environ 17 miliciens ont été tués et 4 autres blessés pendant les affrontements depuis le week-end entre les groupes armés Zaïre et Codeco. Ces combats se déroulent vers la localité minière de Niassi, à environ 100 km au nord de Bunia, dans les territoires de Djougou. Des sources de sécurité signalent également les déplacements de la population dans la région. Les leaders communautaires locaux demandent au gouvernement de traquer ces deux groupes armés qui renforcent leur position dans la zone des combats. Autre nouvelle, les commandants de la 22e brigade des réactions rapides de FRDC dans la province du Tanganyika appellent les soi-disant Wazalendo et d'autres groupes armés qui détiennent illégalement des armes à feu à les remettre. C'était ce lundi au cours de l'inspection du cachot de la 22e brigade à Kalemi. À cet effet, le général Fabien Douni Akashindi s'est adressé au groupe des Wazalendo dénommé Kiliba et à d'autres miliciens qui sont détenus au cachot. Avec Paulin Munanga.
Le général Fabien Douni Akashindi a annoncé aux détenus que l'armée ne reconnaît aucun groupe d'autodéfense dans la province du Tanganyika. Et il lance un appel à tous les groupes armés de remettre les armes et adhérer au programme de désarmement et démobilisation. Wazalendo ou pas, d'abord vous êtes des faux Wazalendo. Les vrais se battent au Nord Kivu. Mai Mai ou Balalarondo se promener avec les armes ici dans la province du Tanganyika, ça ne se fera pas. Là, vous devez même appeler les autres pour qu'ils viennent remettre les armes. Toutes les armes à feu qui sont en brousse doivent retourner au magasin de l'armée. Ici dans le Tanganyika, il n'y a que l'armée et la police qui sont reconnus comme des services détenant des armes à feu. Nous organisons l'opération interdisant la détention des armes à feu dans les mains des groupes armés. Pour rappel, les FARDC ont arrêté dernièrement des hommes armés dans les territoires de Kalemie. Mais certaines sources ont indiqué que les hommes arrêtés sont des patriotes qui sécurisaient l'axe Kalemie-Kabimba et ont mis la main sur des coupeurs de route. Cependant, la 22e brigade de réaction rapide des FARDC a reconnu avoir arrêté des bandits détenant des armes à feu illégalement sur l'axe Kabimba et non des patriotes. Kalemie, Paul Munanga, Radio Okapi.
Dans la province du Haut-Lomami, les territoires des Malembankoulou fait face à des inondations et de nombreuses maisons sont touchées. À cela s'ajoutent plusieurs étendues des champs. Pendant que la société civile locale redoute la famine dans les mois à venir, l'administrateur du territoire sollicite l'intervention du gouvernement en faveur des sinistrés qui sont exposés à des intempéries et autres maladies. Jean Gandou.
Les inondations touchent presque tous les villages de ce territoire de la province du Haut-Lomami. Ceci est la conséquence des fortes pluies qui s'abattent ce dernier temps. L'eau du fleuve a quitté son lit et se répand à travers presque tous les villages. Les occupants des maisons inondées, bien sur la tête, sont en errance, cherchant où aller, car même les villages environnants connaissent le même spectacle. Les personnes les plus touchées sont celles qui habitent les longs du fleuve. Et ces inondations ont occasionné l'écroulement des maisons, surtout celles construites en briques adobe, rapporte la société civile. L'administrateur du territoire de Malemba Koulou indique pour sa part que les riverains du fleuve étaient pourtant sensibilisés pour quitter les lieux, mais personne ne s'est exécuté. Actuellement, rapporte Joël Kayembe, la situation est préoccupante.
Pour cette parce que je vois que ça sera très dangereux. Je lance un appel vibrant au gouvernement national et provincial pour qu'ils nous viennent rapidement en aide parce que ça sera trop grave. Surtout qu'ici, c'est le siège de choléra. Il pleut abondamment. Il y a d'abord beaucoup de maisons qui sont écroulées à partir de l'eau des pluies et l'inondation aussi.
Pour l'autorité territoriale, pour le moment, il est difficile d'avancer un quelconque bilan. Ces services sont à pied d'œuvre pour récolter les données. Et la société civile plaide pour qu'une assistance soit envoyée aux sinistrés, notamment les bâches, pour qu'ils s'abritent en cette période de fortes pluies. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Au Sud Kivu, lancement officiel du projet de réhabilitation et équipement de la clinique médicale de l'école de police Jules Moke dans la commune de Bagira, ville de Bukavu. Ce projet est mis en place grâce à l'appui financier de la MONUSCO à travers sa section UNPOL, police des Nations Unies. La pose de la première pierre a eu lieu ce lundi 23 janvier. Objectif, renforcer les capacités institutionnelles de la police nationale congolaise à travers les infrastructures afin d'améliorer les conditions de travail au centre de l'école Jules Moke. Rachel Kiesembangu nous en parle dans ses reportages.
Il s'agit de réhabiliter la clinique médicale de l'école de police Jules Moke, l'équiper, mais aussi mettre en place un bâtiment pour les bureaux. Ce projet de 3 mois est financé à hauteur de 99 300 dollars par la MONUSCO à travers UNPOL. Ce centre dans lequel des soins primaires sont organisés sans aller en profondeur est composé d'un laboratoire et d'une imagerie médicale. Colonel Docteur Alain Matombe, médecin provincial de la PNC Sud Kivu.
Toute école de formation doit avoir une structure médicale qui répond aux normes afin de subvenir aux besoins de santé des élèves policiers et également de la population environnante. Il était nécessaire que le centre école de police Jules Moke puisse être doté d'une structure médicale qui répond aux normes afin d'organiser les 4 services traditionnels. Et la MONUSCO, qui est le partenaire privilégié de la police, a compris ces besoins exprimés par la police elle-même et a répondu aux besoins à travers les différentes agences, entre autres les autres partenaires. Donc nous saluons la collaboration qui existe déjà entre la MONUSCO, à travers sa section UNPOL et la police nationale congolaise.
Grâce à cet appui de la MONUSCO, la clinique pourra organiser les services traditionnels prévus, notamment la pédiatrie, la chirurgie, la médecine interne et la maternité. Bukavu, Rachel Kiesé, Radio Okapi.
Au Kasaï oriental, le braquage jamais armé ce lundi à la société Anui Congo d'investissement minier SACIM. Près de 3500 carats de diamants ont été emportés par 2 éléments de la 21e région militaire commis à la garde des installations de cette société minière qui exploite les diamants à Boya dans les territoires des Miabi. Plusieurs autres éléments de la 21e région militaire ont été déployés à partir des Mbujimayi pour rechercher les fugitifs. Des explications avec Esther Ndalafina.
Les premières informations fournies à l'administrateur du territoire de Miabi par les autorités de la SACIM indiquent que les faits se sont produits ce lundi après l'exploitation des diamants effectués au niveau de la première usine de production de la SACIM. La même source précise qu'un élément FRDC qui escortait un agent de sécurité a braqué sur lui à mi-chemin lorsqu'il quittait cette usine de production avec le coffre-fort contenant le diamant qu'il a arraché avant de se volatiliser dans la nature. Pendant ce temps, un autre élément FRDC, complice de cette sale besogne, a tiré plusieurs coups de feu en l'air, créant la panique dans les installations de la SACIM avant de prendre le large et rejoindre celui qui a récupéré le coffre-fort de diamants. Le coût de ces pierres précieuses n'est pas connu. Les responsables de la SACIM sont restés injoignables. L'administrateur des territoires de Miabi dit avoir déployé les services de sécurité pour mener les enquêtes. Plusieurs éléments de la 21e région militaire ont eux aussi été dépêchés ce même lundi dans la région pour rechercher les fugitifs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre chose, depuis ce lundi, des engins dont les excavateurs sont déployés sur l'avenue Ngouma dans toute la longueur dans la commune de Ngaliema, ici à Kinshasa. Des camions déversent également gravier à différents points le long de cette route connue pour ses interminables et récurrents embouteillages. Qu'est-ce qui s'y fait exactement? Billy Ivan Lutumba a interrogé le directeur général de l'OVD, Office des voiries et drainage, Victor Tumba Chikela. Suivez ses explications.
D'un moment à l'autre, on va réhabiliter complètement cette route-là. On va garder les gabarits et puis on va changer les sections des caniveaux et tout ça. Et puis on réhabilite complètement toute la route. On va pas l'élargir, mais on va changer les sections des caniveaux qui posent beaucoup de problèmes parce que Ce sont ces eaux qui déambulent, qui abîment la chaussée. Et on a résolu de confier ça à une entreprise qui va faire les travaux.
Et ça va partir de quel point à quel point?
À partir de tout Ngoma. Donc, on va faire tout Ngoma. On va partir de Kitambo, là, Montfleury, vous remontez juste pour sortir sur LDK.
Les travaux prendront combien de temps?
Non, soyez calme. On va faire démarrer les travaux d'un moment à l'autre.
Et puis, l'entrepreneuriat prend de plus en plus de l'ampleur dans les chefs de la jeunesse congolaise en général et de la jeunesse quinoise en particulier. Plusieurs jeunes s'adonnent à la commercialisation de divers articles au moyen de l'Internet et c'est ce qu'on nomme les e-commerce. C'est le cas de Stéphanie Danga et Chris Mbidi qui nous font part de leurs expériences. Suivez ces reportages de Marie-France Mungindu et Greta Lulendo.
Depuis la venue de l'Internet, plusieurs personnes, dont les jeunes, se sont lancées dans les commerces en ligne qui consistent à la vente des biens et services via l'Internet et surtout les réseaux sociaux. Stéphanie Danga nous parle de ses débuts.
J'ai commencé depuis l'âge 1 en 2020-2021. C'est parce que à chaque fois que j'avais envie d'acheter des accessoires, on ne trouvait pas sur place. Et je me suis dit pourquoi pas créer quelque chose qui allait me permettre de pouvoir avoir ces choses, et pas seulement à moi, mais aussi aux personnes tout autour de moi.
Il suffit d'avoir un peu de connaissance, de la motivation, la détermination et un peu de moyens financiers pour se lancer. Chris Mbidi explique.
Ça ne nécessite pas d'avoir un gros chiffre d'affaires, mais c'est la formation. Même à zéro, on peut y aller en tout cas, mais avec bien évidemment beaucoup de difficultés. On n'avait pas vraiment beaucoup de moyens, mais avec la décision et l'envie de le faire, on l'a fait en tout cas. On est en train vraiment en tout cas d'avant.
Ces jeunes que nous avons rencontrés conseillent aux autres jeunes qui attendent encore tout de leurs parents d'essayer de se lancer dans les e-commerce. Ils estiment qu'il est judicieux que les jeunes apprennent à épargner des petites sommes afin de créer leurs propres petites entreprises.
Actualité internationale.
Le Cameroun a lancé lundi 22 janvier une vaste campagne de vaccination des enfants contre le paludisme. C'est une première sur le continent après la phase pilote qui avait été menée dans 3 autres pays. Cette première campagne de vaccination systématique et à grande échelle au monde contre le paludisme est une étape historique selon l'Organisation mondiale de la santé, OMS, dans la lutte contre cette maladie parmi les plus meurtrières chez les enfants africains.
L'invité.
Notre invité, c'est Quentin Noirfalis. C'est l'un des réalisateurs du film Patrice Lumumba, Les Retours d'un héros. Ce film raconte les célébrations hautement politiques du retour de la dépouille de Lumumba, mais cherche surtout à savoir ce qu'il reste de Patrice Lumumba au Congo et en Belgique. Ce film sera projeté ce mercredi au Centre Wallonie-Bruxelles et dans un espace culturel en Djili. Quentin Noirfalis s'entretient avec Cynthia Bachi-Ginabizana.
Quentin Noirfalis, bonjour.
Bonjour.
Ce film se construit sur vraiment toute la vie de Lumumba. Pourquoi, selon vous, il aurait fallu attendre 40 ans avant qu'un commissaire de police belge sorte du silence?
Je pense qu'en fait, ce commissaire de police avait écrit un livre à la fin des années 70, donc le commissaire Gérard Soute, qui avec son frère a eu la tâche de dissoudre les corps de Lumumba au Kito Mpolo dans l'acide et de brûler les restes, ce qui est quand même une manière assez atroce en fait de se débarrasser de corps des quelques-uns des héros de l'indépendance congolaise. Il avait écrit un livre fin des années 70 qui racontait ça, mais sans les vrais noms, sans les lieux. C'était un assassinat dans la brousse. Et personne n'a fait attention à ce livre en Belgique à l'époque. Il faut dire qu'à l'époque, en Belgique, on ne parlait pas beaucoup de ça. Et les questions même décoloniales n'étaient pas du tout abordées. Et il a fallu en fait le travail d'un sociologue et historien belge qui s'appelle Ludo de Witt, qui, lui, à partir du milieu des années 90, a commencé à enquêter dans les archives pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il en était réellement de cet assassinat. Qui étaient les coupables? Parce que la version officielle à l'époque, c'était que des officiels katangais avaient liquidé Lumumba au Kito Mpolo. Mais lui s'est rendu compte qu'il y avait une autre histoire où les Belges étaient lourdement impliqués dans la logistique de cet assassinat, étaient potentiellement au courant puisque conseillers du gouvernement séparatiste katangais, que Mobutu était impliqué aussi. Et donc il est allé dans les archives de l'État et il est allé rencontrer en fait ce monsieur Soute et aussi toutes les autres personnes en fait qui étaient, la plupart sont décédées et qui étaient liées à ça en Belgique. Et alors il y a eu le livre et très vite après il y a eu un premier documentaire qui a été TF1, mm-hmm. par la télévision belge flamande, qui allait voir cette dernière personne. Et donc, ce qu'on a repris, c'est cette archive très célèbre. Je pense qu'à un certain moment, il y a eu un faisceau d'événements qui ont fait quand même que malgré tout, les procureurs fédéraux, que ce soit le roi de Belgique, que ce soit le gouvernement, se sont dit, oui, il est temps quand même d'accompagner cette demande de la famille, d'accompagner aussi cette demande du gouvernement congolais. Je crois que les astres se sont un peu alignés. La dépouille a été rapatriée, donc il y a la possibilité de faire mémoire, et pour la famille et pour le peuple congolais. Mais la question de la vérité judiciaire qui est attendue, elle reste encore totalement ouverte à mes yeux.
Des films sur Lumumba, il y en a beaucoup, il y en a eu énormément. Alors, qu'est-ce qui rend votre film si singulier ?
En fait, il mêle beaucoup d'archives qui n'ont jamais été mises ensemble, qui n'ont jamais été montées ensemble. On a aussi un peu exhumé une archive de l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, de propagande coloniale, qui montre un petit peu, par l'image, ce discours paternaliste des Blancs et très profiteur au niveau économique de la colonie, que Lumumba décriait très très tôt. Et aussi, l'originalité, c'est qu'on prend une forme de recul par rapport à ce qui reste de Lumumba. Et on va demander la parole aux gens de la rue qui sont autour de l'échangeur de Limété, autour de ces événements. Il y a un gars qui a été applaudi en projection à Kisangani parce qu'il dit simplement « Mais c'est très bien, on a rapatrié Lumumba, bravo à tous ceux qui ont fait ça. Maintenant, un héros national a été rapatrié, concentrez-nous sur les enjeux d'avenir du pays. Mm-hmm. » Et finalement, c'est ça que Lumumba raconte un petit peu, en fait, depuis sa tombe en miroir. C'est que les choses qu'il disait à l'époque... reste vrai aujourd'hui par rapport à la fois à la situation du Congo, mais je pense de beaucoup d'autres pays, c'est-à-dire la quête d'une justice sociale, la quête d'une égalité. Même sur la question des femmes, ça reste quand même relativement intéressant, puisqu'il s'adresse à ses frères et ses sœurs dans son discours. Ce qu'on a fait, c'est qu'à la fin du film, on retourne en Belgique, et on voit ce qui est fait au niveau de l'enseignement de Lumumba dans les écoles, et on est vraiment au balbutiement.
Justement, vous avez ce regard croisé là entre les deux sociétés, congolaises et belges. Aujourd'hui, comment est-ce que Lumumba est perçu dans la société belge ?
C'est assez compliqué parce que je pense qu'il y a plusieurs couches. On a une génération vieillissante qui, à mon avis, à la fois le connaissait très très mal et en avait peut-être entendu parler par des parents, anciens colons, etc. Et parfois l'image n'était pas très très bonne de Lumumba. Et puis après, maintenant, arrive une nouvelle génération qui, je pense, est très éloignée de l'histoire coloniale. Ne la connaît pas parce qu'elle n'est pas enseignée en Belgique à l'école. Je trouve que c'est une grande faille à la fois du cursus historique, mais même du cursus dans l'ensemble. Donc voilà, je pense que la perception de Lumumba en Belgique chez les jeunes est quasiment inexistante parce que beaucoup ne savent pas qui c'est. Donc ça montre qu'en fait, cette mémoire, elle est tout autant à bâtir en Belgique qu'au Congo.
Bonne continuation.
Merci beaucoup.
Ce journal est terminé, madame, messieurs. Jean-Claude Tiala a assuré sa mise en onde à la supervision et coordination. Alain Irung-Mouchins et Jude Bilanda. Patience Ngalula à la présentation. Merci de l'avoir suivi.